Dévoration.
Écoutez, Radio Grenouille, c'est une émission qui prend place dans le cadre d'une thématique qui s'appelle Dévoration, qui a lieu pendant plusieurs jours sur Radio Grenouille. Et c'est une émission à laquelle participe Chantal Robles, qui est du syndicat des riziculteurs de France
et filières.
Bruno Giroiro, qui est du Conservatoire des cuisines méditerranéennes. Pierre Milliot, qui est traiteur et qui fait partie du syndicat AOC Camargue.
Voilà.
Bonjour Pierre. Donc, l'idée de cette émission... Alors, il devait avoir avec nous, je précise, pour ceux qui attendaient ça, le chef Armand Arnal de la Chassagnette, qui est à Sambuc, en Camargue, qui a eu une étoile récemment. Et il n'a pas pu être avec nous parce qu'il y a eu de très violents orages hier soir en Camargue. Je ne sais pas si vous en avez eu l'écho, vous.
Oui, moi j'ai eu l'écho, effectivement, aussi bien sur les Saintes que sur la commune d'Arles. Il y a eu de très, très violents orages. Et je pense qu'effectivement...
La Chassagnette a été inondée, un rosier détruit, la terrasse en vrac, des infiltrations de partout. Donc Armand Arnal est en train d'aller faire les déclarations d'assurance qui s'imposent et d'essayer de réparer les dégâts. C'est la raison pour laquelle il n'est pas parmi nous et il s'en excuse beaucoup. Alors l'idée de cette émission, c'est de parler de la cuisine en Camargue et la façon dont elle s'est inventée, à la fois la cuisine et la Camargue, et où elle se réinvente dans ce lien, dans ce delta du Rhône, où le riz est sauvage et le taureau est de table. Mais pas depuis si longtemps que ça, Bruno nous dira ça tout à l'heure. Mais pour commencer, une petite digression, parce que j'ai entendu ça à la radio ce matin. Est-ce que vous savez quel est le cuisinier qui a été choisi pour faire le repas entre Obama et Sarkozy sur les comptes normandes là? Parce que ça a l'air top secret, le FBI est
tout.
Dans la cuisine, les camions réfrigérés passés au rayon X.
Moi, j'ignore complètement.
Mais peut-être que...
C'est un Lyonnais, il paraît. C'est un Lyonnais.
Ah, c'est un Lyonnais. Ben, un bon Lyonnais, parce qu'à Lyon, on fait la bonne cuisine. Et donc, il n'y a pas de raison que tout soit... Tout va être bon et tout le monde va être satisfait de cette cuisine lyonnaise qui est merveilleuse et qui un peu reflète un peu cette cuisine et même temps française et provençale, car toutes les régions de France sont tellement belles d'aspect, de nature et surtout pour la cuisine, puisque le monde entier vient en France et vient surtout dans notre région et dans ces bouches du Rhône où vous trouvez vraiment tous les fruits, tous les légumes et ce taureau de Camargue qui est unique dans toute l'Europe, dans ce delta qui est splendide et qui justement procure des sensations, parce que là vous trouvez le riz de Camargue, vous trouvez ce taureau sauvage qui est unique dans le monde entier et qui, si vous voulez, pour le consommateur, c'est très agréable. Nous sommes ici sur le stand de Terroir 13 pour justement vous faire goûter ce saucisson de taureau et tout ce qui vient de ce taureau, car il faut que vous sachiez que le taureau est réservé exactement pour la course camarguaise, mais que tous ne sont pas des Zidane, et alors pour la course camarguaise, tous ne sont pas bons, et ceux qui sont un peu feignants, qui ne veulent pas courir, eh bien les éleveurs les soignent justement pour cette viande qui est vraiment magnifique et que vous aurez l'occasion de connaître dans toutes ces boucheries de Marseille qui demandaient cette viande de taureau que même les professeurs, les docteurs disent, mais il n'y a pas de gras, il n'y a que 5% de gras dans cette viande de taureau, et puis elle a ce goût magique, ce goût que vous ne trouvez nulle part, ce goût de sel qui en même temps est quelque chose d'extraordinaire. Alors voyez, voilà les amis, venez Marseillais, venez à Terroir 13 et merci à Radio Grenouille, parce que la Camargue, c'est vrai que dans les marais, il y a beaucoup de grenouilles et que ça, c'est la vie sauvage, les grenouilles, les taureaux et même les écrevisses. Alors merci Marseillais, venez tous à Terroir 13.
Bon, boucher, charcutier, traiteur, mais aussi poète, je vois. Ben justement, alors tant que vous avez le micro, parlez-nous de ce syndicat AOC Camargue. Il existe depuis quand ? Quel est votre rôle dans ce syndicat et quels sont ses buts ?
Oui, ce syndicat a été créé à la demande, évidemment, de tous ces éleveurs, de tous ces éleveurs de Camargue, de taureaux. Et nous avons essayé de créer justement cette confrérie, une confrérie pour réunir tous ces éleveurs. Il y a en Camargue environ une centaine d'éleveurs de taureaux. Il ne faut pas confondre de race camarguaise, c'est-à-dire de race avec les cornes en lyre pour la course camarguaise. Et puis nous avons une quarantaine d'éleveurs de taureaux de race espagnole qui ont été importés depuis les années 1880 pour faire des croisements et pour rendre ce taureau de Camargue peut-être encore plus vigoureux. Donc sachez que les gardiens de Camargue, on les voit un peu comme le Far West, mais croyez-moi, c'est pas le Far West, parce que les éleveurs, il faut leur tirer le chapeau, parce que avoir un élevage de taureaux, une manade de taureaux, c'est d'abord dangereux, c'est d'abord quelque chose d'extraordinaire, parce que finalement, le taureau, il vit dans ses marais, et pour avoir cet AOC Camargue que nous avons créé avec cette confrérie, il faut que le taureau absolument ait 6 mois de marais, c'est-à-dire dans les marais, où il trouve sa nourriture et il trouve sa puissance dans ses roseaux, dans ses petits roseaux et dans cette eau salée. Et puis ensuite, il faut qu'il soit élevé 6 mois au foin de croc. Alors là, ça fait une viande extraordinaire. Ça n'a rien de comparable avec un charolais, un limousin ou une blonde d'Aquitaine, qui sont des viandes merveilleuses, puisque la France est le plus beau pays du monde pour la viande. Nous avons 60 races d'élevage en France. Nous avons une viande magnifique. Finalement, nous sommes les plus beaux du monde, puisque tout le monde vient nous voir et vient goûter tous nos bons produits. Mais ici, à Marseille, eh bien, Marseillais, je vous recommande, quand vous venez en Camargue, venez et goûtez la gardiane de taureau. C'est notre spécialité. Et la côte de taureau à la braise, là alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous assistez à une abrivade, vous assistez à une course camarguaise, vous voyez cette fureur du taureau, cette force qu'il a, cette puissance, avec tous ces jeunes qui veulent prendre la cocarde entre les cornes. Et croyez-moi, un taureau, ça a des cornes. Et si vous voyez un taureau en Camargue, eh bien, essayez de repérer un petit arbre qui soit pas trop loin pour monter vite dessus, parce que lui, il va vous courir après et puis il va vous faire un trou dans le pantalon, croyez-moi. Et c'est pas très agréable, hein. Mais la viande de taureau, c'est extraordinaire. Alors, amis marseillais, nous sommes en terroir 13. Profitez, venez nous voir. On vous donnera toutes les directives pour trouver cette viande qui est formidable, qui est diététique, et qui vous donnera la puissance du taureau, puisque de tout temps, depuis la nuit des temps, on a recherché ce sang, cette viande de taureau qui donne la force et la puissance que vous allez avoir. Alors, venez tous à terroir 13 et merci encore à Radio Grenouille. Radio Grenouille, extraordinaire. Dans ce terroir 13. Merci.
Alors, Bruno, le Conservatoire des cuisines méditerranéennes doit s'intéresser. Non, vous restez avec nous jusqu'à la fin. C'est pour ça, c'est pas la peine de dire tout dès le début. On va avoir le temps de parler du taureau. Donc, le Conservatoire des cuisines méditerranéennes, ça existe depuis de nombreuses années au niveau international, surtout le bassin méditerranéen. C'est à la fois l'idée de préserver un peu le patrimoine culinaire de ces pays du bassin méditerranéen, de le promouvoir. Donc le taureau camarguais depuis la nuit des siècles et tout ça, c'est vraiment une spécificité de la Camargue, le taureau dans les cuisines méditerranéennes.
Je vais apporter un peu de contradiction. J'aimerais parler justement pas du taureau, mais de l'agneau de Camargue. Puisque traditionnellement, c'est l'agneau qui était en Camargue. L'élevage du taureau, le développement de l'élevage du taureau, c'est fait relativement récemment, depuis les années 50 peut-être, hein, où vraiment le... Bon, il y avait des taureaux, mais l'élevage vraiment pour la viande AOC, c'est relativement récent. Ouais, donc, et on trouve en fait toutes les recettes camarguaises, et notamment on parlait de la gardiane. À l'origine, la gardiane, c'est avec de l'agneau, c'est pas avec du taureau. C'est pour ça qu'on précise bien, quand on parle de gardiane, on parle de gardiane de taureau. Quand on parle de gardiane tout seul, ça veut dire que c'est la gardiane d'agneau. Voilà, donc c'est à l'origine ce qui a fait la... Bon, on reparlera du mouton parce qu'il est très caractéristique aussi de la Camargue, avec un AOC aussi, et qu'il est très intéressant autour des recettes et de son goût.
Alors pourquoi il y a cette volonté d'inscrire le taureau en Camargue depuis la nuit des temps, de mythologiser un peu tout ce rapport
Moi je crois que d'abord, le taureau ça fait partie de la vie mythique de la culture. de la culture camarguaise, comme ça fait partie de la culture de pratiquement tous les deltas qu'on trouve en Espagne, hein, le delta de l'Ebre, etc. Donc ça fait partie d'une culture, ça fait partie du mythe de... Du dieu, je ne m'appelle plus le nom, là, ça m'échappe sur le...
Je sais pas, le Minotaure.
Le Minotaure, bon, ça fait partie vraiment de la culture méditerranéenne, l'affrontement de l'homme face au taureau. Donc, en Camargue, il y avait l'affrontement face à ces taureaux qui étaient très spécifiques, hein, les bioules, et qui avaient justement des cornes très, très en forme de lyre. Et alors que la race, ce qu'on appelle la race brave, hein, les taureaux de combat, eux n'ont été introduits qu'à la fin du 19e siècle. Mais c'est vraiment, dans les jeux du cirque, l'homme affronte le taureau, ça fait vraiment partie des mythes méditerranéens.
Et qu'est-ce qui explique que ça soit passé donc, dans les années 50, comme tu le disais, on s'est mis à manger du taureau en Camargue, à faire ça. Qu'est-ce qui explique ce... Pierre.
Ouais, là, je voudrais quand même préciser... Je voudrais préciser que c'est vrai qu'il n'y a pas depuis longtemps que, disons que l'on négocie et qu'on en a créé cet AOC Camargue. Ce qu'il faut préciser et que le consommateur se rende compte, c'est que le taureau qui est fait pour la viande, que nous commercialisons en Côte à l'Oz ou en Gardiane, il faut préciser que cet élevage-là n'a jamais combattu dans les arènes. Que ça veut dire que la viande qui passe en boucherie, c'est des taureaux qui n'ont jamais touché, qui n'ont jamais fait une corrida ou une noviade, ou qui n'ont jamais été en course libre. Donc c'est des bêtes qui ne correspondent pas, que le manadier justement provoque et disons institue pour voir si le taureau va être brave dans l'arène et s'il va être fougueux, s'il va être vraiment à son avantage. Et c'est là qu'il le choisit. Et quand le taureau ne présente pas justement ses conditions sportives pour aller ou sur le cheval ou pour aller sur le taurère ou pour aller au raseteur, eh bien ces taureaux sont pris pour justement pour aller en abattoir et être tués, disons, avec vénération, sans haine et sans peine, quoi. Et alors c'est cette viande qui est vraiment merveilleuse parce que justement c'est en principe des bêtes jeunes. C'est des bêtes jeunes qui sont abattues et qui présentent une viande aux caractéristiques vraiment très 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 bonne.
Mais est-ce qu'on trouvait du taureau dans la cuisine en Camargue avant les années 50 ou pas du tout?
Oui, oui.
Ah, on en trouvait peu, c'est-à-dire que les élevages n'étaient pas très importants, hein. il n'y avait pas de gros troupeaux, mais madame a plus d'éléments que moi peut-être.
Oui, moi je voudrais rajouter qu'il y a un élément économique à prendre en compte. C'est qu'en fait, ce qui a fait qu'on a produit des taureaux pour la consommation, c'est qu'en fait, il y a un coût économique, c'est qu'avoir un élevage, avoir une manade, ça coûte cher. C'est un peu une danseuse pour beaucoup d'agriculteurs, c'est une passion. Mais cette passion, elle est onéreuse. Et à un moment donné... Ils ne pouvaient plus se permettre de sélectionner des taureaux et de laisser les autres comme ça dans les champs. Donc il fallait trouver comment on pouvait les utiliser. Et l'alimentation et la boucherie semblaient être tout à fait trouvées, d'autant que cette viande avait des caractéristiques très, très intéressantes d'un point de vue gustatif. Donc je pense que c'est pour ça qu'à partir des années 50, on a commencé à trouver de la viande de taureau en consommation et qu'aujourd'hui... Pour certains éleveurs, c'est aussi un complément de revenus qui leur permet d'assouvir la passion de l'élevage de taureaux pour la cocarde, pour la tradition et pour la course camarguaise. Parce que sinon, tout a un coût. Et ça, les agriculteurs n'ont plus les épaules ou les reins assez solides pour supporter ces coûts-là.
Et alors, il faut se rendre compte que ça a rencontré l'engouement du public, hein, que ça a eu... la viande de taureau tout de suite a été appréciée par les consommateurs. Bon, c'est
quand même réduit la zone de consommation du taureau, non?
Oui, oui. Alors, le taureau se négocie, disons, dans toutes les bouches du Rhône et dans les villages autour d'Arles. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est que c'est en 1996 que, l'association des gardiens et, disons, l'abattoir du pays d'Arles, qui est notamment à Lazare et Roux, avec les gardiens et avec le parc régional de Camargue surtout, qui ont créé l'AOC. Et c'est depuis cet AOC que le taureau a été commercialisé, puisque l'abattoir du pays d'Arles à Lazareux, à Tarascon, est le seul abattoir dans les Bouches-du-Rhône de pouvoir abattre ces bêtes. Car il faut quand même un couloir spécial, il faut quand même des conditions spéciales qui ne sont pas les mêmes qu'un taureau d'élevage, qu'un bœuf d'élevage. Hein. Le taureau, ça a des cornes. Quand ça se sent prisonnier, ça veut s'échapper. Et donc, il faut des abattages spéciaux. Et je dis bien, c'est depuis 1996, avec le parc régional de Camargue, l'abattoir du pays d'Arles et les éleveurs de Camargue qu'ont été créés, qu'on a fait cet AOC Camargue. Et c'est grâce à l'abattoir que c'est négocié et que c'est commercialisé maintenant. Sinon, on ne pourrait pas.
Il faut souligner que c'est ce même abattoir qui a l'AOC aussi agneau de Camargue.
Donc, c'est vrai que dans la nuit des temps, la Camargue était couverte d'agneaux. C'était l'élevage de l'agneau. Mais maintenant, disons, le berger, c'est un élevage qui s'est un peu retréci, qui est difficile à mener. Et donc là, nous travaillons actuellement pour avoir, on ne l'a pas encore, mais pour avoir l'AOC, agneau de Croc et agneau des Alpilles, qui vraiment est un agneau en liberté, qui broute le thym, le romarin dans les collines et qui fait une viande vraiment merveilleuse. L'agneau de Croc et l'agneau des Alpilles est renommé dans la France entière. C'est une race vraiment mérinos, mais une race qui vraiment... je crois que nous sommes une des seules régions de France encore à provoquer et à faire la transhumance, c'est-à-dire que nos bergers partent avec leurs troupeaux et pendant les périodes chaudes, c'est-à-dire les périodes d'été, et amène ces agneaux en transhumance jusqu'en Savoie pour profiter de l'herbe verte et du bon air. Je veux dire, cette transhumance existe depuis la nuit des temps, mais autrefois, les bergers, il y a encore les sentiers où les bergers passaient à pied avec les agneaux avec les chiens et les ânes. Hein. Bon, maintenant, évidemment, tout est devenu moderne.
C'est plus pratique, hein. Il y a le camion.
Voilà, c'est un peu plus pratique, hein. Mais bon, reste pas moins que l'agneau vraiment des Alpilles de Croc est une viande très, très bonne, fine et très réputée.
L'agneau de Camargue aussi est très réputé pour une double raison, c'est que l'hiver, donc les temps présalés, puisqu'en Camargue il y a beaucoup de salinité, donc il y a un présalé, et l'été il est dans les estives, dans les Alpes de Haute-Provence ou plus haut dans les Alpes, donc il a une double, c'est pas comme l'agneau de Normandie, le présalé de Normandie qui est lui toute l'année en présalé, donc ça fait une viande beaucoup plus fine, beaucoup plus raffinée, donc c'est important à souligner par rapport à cet AOC puisque le bouton était l'agneau ou le mouton était à l'origine et un des produits à l'origine de la cuisine camarguaise, quand même des meilleurs plats camargués.
Une des races, il faut préciser qu'une des races importantes s'appelait le mérinos d'Arles. C'est toujours une race qui existe toujours et c'est la race de mérinos d'Arles. Donc ça explique bien que l'importance de l'agneau en Camargue et dans le pays d'Arles et en Croc, quoi, hein, parce que c'est quand même tout le pays d'Arles, c'est la Camargue et la Croc.
Donc Chantal Robles, vous êtes du syndicat des riziculteurs. Alors le riz, il faut remonter à la nuit des temps, celle de Pierre Millot, ou aussi aux années 50.
Non, on ne remontera pas à la nuit des temps. On trouve des traces de riz en Camargue. La légende dit que c'est Henri IV qui a, en 1693, instauré, demandé à ce que soit cultivé en Camargue le riz et la garance. Simplement, ça a été, on va dire, des cultures qui étaient anecdotiques. Et pendant toutes ces périodes-là et jusqu'au XXe siècle, le riz n'était utilisé que pour dessaler les terres et pour l'alimentation animale. Il n'était pas consommé en alimentation pour les humains. Il a fallu effectivement attendre. Alors, presque les années 50, mais l'histoire vraiment du riz de Camargue a commencé pendant la guerre. En fait, pendant la guerre, les gens se sont dit, les Camarguais se sont dit, c'est quand même un peu stupide. Il y a le blocus des ports qui est instauré, donc tous les riz qui alimentaient la France provenaient de soit nos comptoirs, soit nos colonies, Madagascar, l'Indochine, etc. Et donc, avec le blocus des ports, les riz n'arrivaient pas. Et donc, la France était en régime de sous-alimentation. Donc, ils se sont dit, c'est quand même un peu stupide. Nous, on a toujours produit du riz pour alimenter le bétail. Le riz, c'est quand même avant tout la base de l'alimentation humaine. Ça serait bien d'en produire pour pouvoir nourrir la population française. Donc, une poignée d'hommes se sont battus pour pouvoir avoir l'autorisation d'aller chercher des semences de riz en Italie. Ce qui a été fait en 1942. Et en 1942, trois hommes très importants qui étaient Pierre Dulac, Edmond Clausel et Monsieur Ricard, Paul Ricard, ont en fait obtenu du gouvernement et de la préfecture de pouvoir avoir ces semences, d'aller les chercher et de les implanter et de les semer en Camargue. Et cette année-là, une centaine d'hectares ont pu être semés. Ils ont conservé les semences pour pouvoir en semer l'année d'après. Et c'est de là qu'est partie la grande aventure du riz de Camargue. Ensuite, avec la reconstruction et le plan Marshall, à la fin de la guerre, toutes les infrastructures des réseaux hydrauliques ont pu être mises en place et instaurées. Et ce qui a permis le développement de la riziculture en Camargue, qui arrivait également à un moment où la culture qui a précédé le riz et qui était très importante en Camargue était la vigne. Et c'est également pareil, cette vigne a commencé à être arrachée et la vigne avait un intérêt parce qu'on inondait les terres et qu'elle permettait en fait de maintenir la nappe d'eau salée qui ne remontait pas. Donc il fallait trouver une culture de substitution qui permet d'apporter de l'eau pour que les terres se dessalent et permettre d'autres cultures. Et la seule culture qui pouvait faire ça, c'était le riz.
Je crois que le riz doit aussi beaucoup à des travailleurs indochinois qui ont été réquisitionnés pendant la Seconde Guerre mondiale pour justement travailler en Camargue dans des conditions, il me semble, plus que difficiles. Quoi.
Tout à fait. C'est une période de l'histoire qui est souvent méconnue et oubliée. Effectivement, il y a eu des travailleurs indochinois qui ont été réquisitionnés et mis à disposition, on va dire, entre guillemets, de certains propriétaires camarguais pour pouvoir transmettre leur savoir-faire sur la culture du riz, puisque chez eux, c'est une culture ancestrale. Et effectivement, il y a eu cette population-là qui a été très importante. Mais il y a eu aussi une autre population qui a été très importante. C'est à la fois les populations italiennes et les populations espagnoles. Puisqu'en fait, les travailleurs indochinois, après, sont très vite repartis. C'était dans les années 50, le riz n'était pas semé en semis direct, mais était repiqué. Et pour repiquer le riz, ça demandait une main-d'œuvre importante. Et cette main-d'œuvre, elle venait très souvent d'Espagne, de régions assez pauvres d'Espagne. Et jusque dans les années 76-75, on a eu des repiqueurs espagnols et un petit peu italiens qui sont venus travailler le riz en Camargue.
Je crois qu'il y a eu après une période assez problématique pour le riz en Camargue. Je crois dans les années 60, ça marchait pas trop bien parce que c'était le riz rond qui était produit, c'est ça.
Alors, il y a eu une période où, dans les années 60, c'était les années de l'embellie. Et la période où les choses sont devenues plus problématiques, ça a été quand la France a adhéré au marché commun. Et où la politique agricole commune a commencé à se mettre en place parce qu'il y avait seulement trois pays producteurs, enfin il y avait seulement deux pays producteurs de riz au départ de la construction de l'Europe, qui étaient l'Italie et la France. Et dans les accords, les pays se sont un petit peu partagés, on va dire, le marché des céréales. La France prenant en fait le marché du blé, qui était sa céréale de prédilection, et laissant, on va dire, à l'Italie toutes les directives pour gérer le marché du riz. Or, il y avait des disparités en termes de prix, de main-d'œuvre et de coûts, ce qui fait que tout à coup, les cours se sont effondrés et que les cours de marché étaient fixés sur les marchés de Vercelli, qui est en Italie. Donc ça a été une période où le riz n'était plus rémunérateur et ne permettait plus à un exploitant de vivre, parce que cultiver du riz, ça demande du nivellement, de gros tracteurs, pas pour frimer, mais des gros tracteurs qui ont besoin de la puissance, parce qu'on travaille dans l'eau. Ce sont des coûts d'investissement qui sont très importants. Donc tout ça ne permettait pas, le prix du riz ne permettait pas à l'agriculteur de s'en sortir. Donc à ce moment-là, les agriculteurs se sont dit, bon, maintenant ça fait une dizaine d'années qu'on fait du riz, on a dû bien dessaler les terres, on peut passer à autre chose. Sauf que la Camargue, il faut savoir que c'est une île qui est compris entre les deux bras du Rhône et qui repose sur un lit de gravier et de sable et une nappe d'eau salée qui remonte par capillarité. Et en fait, le fait d'inonder de l'eau et d'apporter de l'eau douce permet de contenir la nappe d'eau salée qui ne remonte pas. Mais dès qu'on arrête d'apporter cette eau et d'exercer cette pression, on voit apparaître très très rapidement des nappes, des taches de sel sur les terres, et il y a très peu de cultures à part la salicorne qui aiment pousser sur des terrains salés. Donc très rapidement, aussi bien les cultures de substitution telles que le blé, les luzernes, etc., n'avaient plus non plus de rendement. Donc il a fallu réinstaller la culture du riz. Et là est arrivée une équipe à la tête de laquelle était Pierre Guillot, qui était régisseur du domaine de Méjeanne et qui était toujours poussé par Paul Ricard, qui avait toujours cet amour de la Camargue et du riz. Et ils ont mis dans les années 80 un plan de relance de la riziculture qui avait pour ambition d'arriver à remettre 15 à 20 000 hectares de riz en Camargue. Et ce plan, à la fin des années 80, il était atteint. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a pris conscience qu'on ne pouvait pas faire du riz de manière intensive comme on a pu le faire dans les années 60. C'était trop, ça déséquilibrait la Camargue, il y avait trop d'apport d'eau douce qui après induisait des déséquilibres, mais qu'il fallait un équilibre entre tout, et que 15-20 000 hectares, c'est le bon accord, et que tout le monde s'y retrouve, aussi bien les gens du sel qui ont les apports d'eau salés qu'il leur faut, aussi bien les gens de l'élevage qui ont aussi des herbages qu'il faut, parce que il y a un mythe, moi, que j'aimerais qu'on éteigne, c'est que la Camargue, pour tout le monde, c'est une terre naturelle. Il n'y a pas plus artificiel que le delta camarguais depuis qu'on a endigué le Rhône au 19e siècle. Et en fait, ces apports d'eau douce qui étaient faits par le Rhône, qui déversait plusieurs fois par an sur les terres, il faut qu'aujourd'hui, ces apports d'eau douce, ils soient faits par l'homme. Et l'homme ne peut les faire et ne peut les assumer que si derrière, il y a une production qui peut permettre d'assumer ce coût, parce que irriguer, ça coûte cher. Et ça, on l'oublie aussi souvent.
Alors, ce territoire artificiel de Camargue, on a quand même l'image d'un territoire sauvage, la nuit des temps et tout ça, etc. Ouais. Bon, et il y a quand même des endroits qui ont été préservés, tout ça. Est-ce que tout cette activité, qui dit sauvage, dit souvent écologiste. Mmh. Est-ce que toute cette activité des riziculteurs, des salins, etc., etc., comment ça se passe avec les écologistes? J'ai cru comprendre qu'au niveau justement de l'hydro en Camargue, donc où on sait que la nature c'est quand même en même temps un élément d'attractivité très important du territoire, et qu'il y a pas mal d'activités qui se développent autour d'un écotourisme, etc. Comment se passent les relations entre écologistes et justement exploitants agricoles, riziculteurs?
En bonne intelligence, parce que justement l'épisode des années 80 où le riz avait périclité a montré que le fait de ne plus amener d'eau douce en Camargue changeait vraiment la nature, et avait des conséquences très très importantes aussi bien au niveau de la faune que de la flore. L'étang du Vacarès est le seul étang qui comporte les trois types d'eau, eau douce, eau saumâtre, eau salée. Et le fait de ne plus avoir d'apport d'eau douce avait rendu l'étang du Vacarès complètement salé. Ce qui fait qu'on commençait à voir disparaître certaines espèces qui vivent dans cet étang. La faune également
Donc impossible de laisser faire la nature.
En Camargue, non, c'est ça, impossible de laisser faire la nature. Il faut à un moment donné, depuis qu'on a endigué le Rhône, il faut des apports d'eau douce. Donc ces apports d'eau douce, il faut les faire, et ça a un coût. Qui le prend en charge? On parle toujours des animaux. Alors, l'image, c'est les chevaux, les flamants roses, les taureaux, les paysages et les hommes dans tout ça. Les hommes, ils sont là pour travailler, apporter l'eau douce, faire vivre cette Camargue. Et ça, c'est super important. Et c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps. Et je dis pas qu'il y a pas de, qu'il y a pas de dissension de temps en temps entre les écolos purs et les agriculteurs. Mais bon an, mal an, tout le monde a compris que tout le monde avait besoin de tout le monde et qu'il fallait travailler en bonne intelligence. L'agriculteur, il a intérêt aussi à travailler soit en agriculture raisonnée, pour des tas de raisons, parce que d'abord, c'est son lieu de travail, c'est son lieu de vie. Il y est attaché. Cette terre, il l'aime. Il n'a pas envie de la voir partir à volo. Donc ça, pour lui, c'est aussi important. Et puis, c'est son gagne-pain. Donc, tout ça, c'est important.
Et c'est un secteur où les aliments, où les, par, excusez-moi, les arguments aujourd'hui autour du bio, du développement durable, pèsent de plus en plus lourd.
Bien sûr, bien sûr. C'est très important. Maintenant, tout le monde ne peut pas faire du bio. Parce que ça demande des infrastructures qui sont très importantes, ça demande une organisation qui est très importante. Il faut qu'autour de vous, les autres exploitations également jouent le jeu. Enfin, c'est très compliqué. Mais on peut trouver des équilibres et travailler, avoir du bio, avoir de l'agriculture raisonnée. Et en Camargue, on est plutôt en agriculture, enfin sur le riz, on est plutôt en agriculture raisonnée. Ouais. Pour des raisons également économiques, et puis parce que tout le monde a aujourd'hui pris conscience que effectivement dans les années 60, il y a eu des choses un petit peu aberrantes qui se sont faites, et que ces choses-là, on ne veut pas que ça se reproduise.
Ouais, elle a bien expliqué, elle a très bien expliqué. Et c'est vrai que cette Camargue est merveilleuse, mais elle est maîtrisée. Heureusement qu'elle est maîtrisée, parce que sinon, on ne retrouverait pas tout ce qu'on retrouve, et combien il faut la protéger pour ne pas être quand même faire n'importe quoi. Et c'est vrai qu'en Camargue, on a maintenant du vin bio. On a un très bon vin bio. Donc, il y a du vin, il y a du riz, il y a la viande de taureau. Donc, c'est extraordinaire. Mais pour revenir au taureau, il faut que le particulier, les gens viennent en Camargue et assistent à une ferrade. La ferrade, c'est le départ, quoi. C'est le départ de la vie du taureau, quoi. Le taureau a un an, on l'appelle la nouble, puis après il devient doublin et puis il devient trainin. Mais tout ça, c'est la vie sauvage, c'est cette vie qui finalement, comme l'a expliqué madame, elle a très bien expliqué.
Madame Chantal Robles.
Voilà, madame Robles, elle a très bien expliqué ce qu'était, disons, et être raisonné en Camargue. Je pense qu'on est raisonné en Camargue et qu'on protège, qu'on arrive à protéger, que ce soit toutes les espèces, disons, animales et végétales.
Vous écoutez Radio Grenouille, c'est une émission qui prend place dans le cadre d'une thématique qui s'appelle Dévoration, qui a lieu pendant plusieurs jours sur Radio Grenouille, et c'est une émission à laquelle participe donc Chantal Robles, qui est du syndicat des riziculteurs de France
et filières.
Pierre Milliot, qui est du syndicat AOC Camargue, et Bruno Giroero, qui est du Conservatoire des cuisines méditerranéennes. On parle donc de Camargue. Bruno, avant ces années 50, cette fameuse nuit des temps où le taureau et le riz sont apparus de façon importante dans la cuisine camarguaise. C'était quoi la cuisine camarguaise avant ça?
C'était la cuisine. Il y avait les produits de la mer, les produits du Rhône, donc les poissons de fleuve, les poissons d'eau douce et les poissons de avec les coquillages et crustacés. Bon, on peut parler des tellines, et puis les moutons. Les moutons et les légumes. Donc il y avait une alimentation assez originale. Je dis pas qu'elle avait une très large palette, mais elle empruntait largement aux autres régions de Provence. Mais il y avait une alimentation assez originale. Bon, on a cité la gardiane, hein, mais ça peut être la carbonade, ça peut être aussi les pieds paquets à façon camarguaise. Bon, qui prenait en compte plutôt les aubergines, les courgettes, les tomates, donc les légumes qu'on pouvait trouver dans les maraîchers du coin, quoi. Et d'autre part, bon, évidemment, tout ce qui avait trait aux poissons, avec notamment toute la cuisine autour de l'anguille.
D'accord. Est-ce que ces aliments, ces produits connaissent depuis ces dernières années une évolution aussi, où le taureau, le riz ont pris toute la place en Camargue, ou est-ce qu'il reste de la place pour cette cuisine-là?
Non, moi je crois que on parle beaucoup du taureau parce que il y a un peu un effet de mode, comme pour les corridas, il y a un effet de mode à l'heure actuelle. Bon, le taureau, la Camargue, le sauvage, comme dit monsieur, mais qu'en même temps, il y a énormément de gens qui mangent très peu de taureau en Camargue, qui mangent du mouton, ou qui mangent du bœuf, ou qui mangent du poisson. Donc, le taureau, ça reste quand même. D'abord, c'est un produit cher, mais il ne faut pas l'oublier. C'est un produit, une viande relativement de luxe, hein, enfin de luxe.
Ouais, c'est pas plus cher que la viande.
Oui, mais la viande c'est cher. Mais le mouton c'est cher aussi. Hein, donc.
Ouais, et c'est dur à élever aussi. Hein.
Bah, non, mais je, c'est pas une critique. Hein, c'est pas une critique.
Oui.
C'est une viande qui a son prix, disons.
C'est-à-dire, ouais. le filet de bœuf, c'est quoi? C'est aux alentours de 30 euros le kilo.
Vous appelez cher, mais la viande, c'est pas un produit qui a tellement augmenté par rapport aux années précédentes, avec ce que ça coûte à l'éleveur pour arriver justement à arriver à cette viande, hein, que ce soit de l'agneau, que ce soit du bœuf, hein, ou que ce soit du taureau. Hein. Donc, c'est pas excessif. Quoi. On peut pas dire que ce soit cher, c'est courant. Hein. Vous achetez une gardiane de taureau, vous la payez 10 euros le kilo. Quoi. Pour faire une gardiane de taureau, ça vaut 10 euros le kilo, un gardiane de taureau. Bon, le steak de taureau, vous avez du steak de taureau entre 10 et 15 euros quand même. Hein. Je le vois dans toutes les boutiques ou dans tous les magasins. L'agneau, un peu plus cher, c'est un peu plus dur à élever, disons. Mais bon, les prix, moi je trouve que les prix n'ont pas tellement évolué par rapport à certaines choses. Hein. Je trouve que les légumes sont plus chers que la viande, hein. Ça c'est sûr. Hein. Et il y a beaucoup plus à trier. Hein.
Le kilo de carottes reste moins cher que le kilo de bœuf en ce moment.
Ah ben oui, bien sûr quand même. Oui, restons raisonnables. Mais dans la viande, la ménagère qui sait acheter et qui achète les bas morceaux, qui sait faire un pot-au-feu, qui prend le temps, mais maintenant la ménagère elle n'a plus le temps. Mais pour faire un pot-au-feu, pour faire une daube d'Avignon, justement la daube d'Avignon est faite uniquement avec la viande de mouton.
La daube camarguaise aussi.
Et, tandis que la gardiane de taureau, c'est fait avec le taureau. Voilà. Mais tout ça, c'est vraiment à des prix abordables. La viande se tourne aux alentours de 10 euros, 65 francs anciens le kilo, pas plus, dans les bas morceaux, dans les morceaux que la ménagère doit faire. Si vous prenez du filet, évidemment, dans un filet de taureau, ça pèse 2,5 kg. Il n'y en a pas beaucoup dedans. Hein. C'est obligé. Hein.
Alors, est-ce que pour ces autres produits, mis à part le taureau, le riz, on ne sait pas trop, mais le taureau s'est lancé dans une démarche de terroir, d'AOC, de labellisation, comme ça, d'indication géographique protégée. Est-ce qu'il y a d'autres produits de Camargue qui sont lancés aussi dans cette démarche de terroir, qui semble en ce moment la démarche de terroir, même depuis plusieurs années. Oui, l'agneau,
tu nous l'as dit. Après, il y a eu une tentative pour faire... comment ça s'appelait?
Moi, je voudrais quand même dire que le riz, il est sous IGP, c'est-à-dire indication géographique protégée. Donc, ça veut dire qu'on est dans une démarche de labellisation. Enfin, depuis 1998, on a eu une certification produit et en 2000, on a obtenu l'IGP. Donc, IGP, ça veut dire indication géographique protégée. C'est un signe européen qui est reconnu dans toute l'Europe et qui atteste que le produit vient bien de là où il est indiqué. Donc, quand il y a marqué riz de Camargue sur un paquet et que vous avez un logo jaune et bleu qui indique indication géographique protégée, vous pouvez être sûr que le riz vient ben de là. Et ce riz-là, il est tracé depuis le champ jusqu'à la mise en paquet. Et je voulais rajouter quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure quand on parlait de la protection de l'environnement, et etc. Justement, le fait d'avoir fait cette démarche de labellisation du riz de Camargue a entraîné les producteurs à également repenser leur mode de culture. Et dans le cahier des charges de la production du riz de Camargue, il y a quelque chose qui est unique je pense, quasiment au monde, on est à peu près les seuls à le faire, c'est-à-dire que chaque parcelle est irriguée de manière indépendante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le système de la surverse qui est pratiqué. Ça veut dire que la surverse, ça veut dire que pour remplir une parcelle, on en remplit une, qui en remplit une autre, qui en remplit une autre, et elles débordent les unes vers les autres. Ce qui fait qu'on peut retrouver dans la dernière parcelle, on va dire, une concentration de produits, parce que chaque fois que l'eau est passée d'une parcelle à l'autre, elle s'est chargée. Ça, en Camargue, c'est interdit. Ça veut dire que chaque parcelle a une entrée d'eau indépendante et une sortie d'eau indépendante, avec une martellière qu'on lève et qu'on ferme. Et ça, ça permet aussi, ça participe à ce que je vous disais de l'agriculture raisonnée et de la protection de l'environnement. Par ailleurs, ce riz, le riz qui est produit en Camargue, il est reconnu, il y a des analyses qui sont en train d'être faites. Il est produit en conditions un petit peu stressantes et limitantes, c'est-à-dire qu'on est en limite de température pour sa culture, on est en limite en termes de salinité du sol, et comme toute culture produite dans ces conditions-là, la productivité est moindre, mais la concentration aromatique dans les grains est supérieure. Et il y a justement le Centre français du riz, qui est un institut qui travaille beaucoup avec le syndicat, a lancé des études pour justement quantifier et montrer qu'une même variété de riz produite en Italie, en Espagne ou en Camargue n'a pas la même n'a pas le même goût et n'a pas la même teneur, ni en arôme ni en taux de protéines. Et ça fait 3-4 ans que les études sont lancées, et tous les ans le riz de Camargue arrive en premier, et c'était quelque chose qu'on avait comme ça, qu'on induisait, les gens nous disaient mais
le riz du pot est amer.
Pardon ?
Le riz du...
Le fameux riz amer du pot.
Ah oui. on peut parler effectivement de riz comme ça.
Il y a eu une tentative il y a quelques années de créer l'huître de Camargue. Alors, je ne sais pas cette expérience. Je pense qu'elle est tombée à l'eau, je pense, cette expérience. Mais il y a eu une expérience Il y a eu aussi des expériences autour de créer une AOC huile d'olive Camargue. Et là aussi, je pense que cette expérience n'a pas vu le jour. Je sais pas du tout où en est l'huile d'olive en Camargue à l'heure actuelle.
L'huile d'olive, parce que là c'est de l'huile d'olive, c'est la vallée des Baux.
Non, mais ça, je sais. Ouais, c'est pas un problème.
Ouais. Non, mais il y a des producteurs.
En Camargue.
Il y a eu une tentative. Il y a eu une tentative il y a quelque temps de créer une AOC Camargue pour l'huile d'olive. Je sais bien qu'il y a 3 huiles d'olive AOC en Provence. Hein, donc il y a l'AOC des Baux, il y a l'AOC d'Aix, et l'AOC Provence. Donc, mais c'est des tentatives qui apparemment sont très difficiles à mener jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'est lié à l'huile d'olive de Camargue. Pourtant, dans la cuisine camarguaise, il y a beaucoup d'huile d'olive. Hein. C'est une cuisine à l'huile d'olive. Mais
le territoire est petit et le nombre de producteurs est assez faible, et c'est compliqué. Monter une AOC ou monter un signe de qualité, c'est quand même un sacré parcours de combattant. Par exemple, pour monter...
Mais tout le monde veut le faire aujourd'hui.
Tout le monde veut le faire, c'est vrai que c'est un plus, mais ça a aussi des limites.
C'est un plus commercial
Alors, il faut savoir, par exemple, c'est vrai que nous, quand on s'est lancé dans la démarche qualité riz de Camargue, le premier signe qui vient à l'esprit, c'est monter une AOC. On se dit l'AOC, c'est le signe qui est reconnu par tout le monde et qui est le signe que tout le monde veut.
Sauf qu'il ne faut pas confondre avec le bio. Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Sauf que ces signes de qualité, ils ont chacun leurs particularités et leurs contraintes, et qui ne peuvent pas s'appliquer à tous les produits. Par exemple, pour le riz de Camargue, si on avait choisi une AOC, ça voulait dire qu'on s'interdisait toute entrée de nouvelles variétés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas vous proposer ni de riz noir, ni de riz parfumé, ni de riz très long,
le
ni de
nouvelles variétés, aussi,
ni de riz rouge. Toutes ces variétés-là, elles auraient été exclues de l'AOC parce que ce n'étaient pas des variétés dites traditionnelles et ancestrales.
Oui, mais il y a beaucoup si on prend le vin, il y a beaucoup de gens qui maintenant font des AOC, et puis après qui font du vin de pays avec des nouveaux cépages. Donc ça aurait pu être une manière aussi de continuer d'avoir une AOC riz de Camargue, et puis par ailleurs d'avoir des riz
À l'époque, quand au niveau de la DGCTRF, ils étaient, s'il y avait une AOC Camargue, ça voulait dire que tous les autres riz produits en Camargue ne pouvaient pas se prévaloir du mot Camargue à côté. Mmh. Ça veut dire qu'on coupait toute une partie de la production de son terroir. Et ça, c'était pas possible. Alors qu'un signe comme l'IGP permettait, en fonction du cahier des charges drastique que l'on s'est mis, d'à la fois assurer une production et de qualité et une origine, et ne pas s'interdire de pouvoir amener tout le travail des chercheurs et de nouvelles variétés.
Voilà, parce qu'il y a des appellations en fait d'origine protégée qui peuvent finalement réduire le champ des exploitations, donc réduire le champ des cuisines, des innovations, des choses comme ça. Quel est, Bruno, est-ce que tu as une idée de l'impact qu'ont toutes ces indications géographiques protégées sur la cuisine ? Sur les cuisines, est-ce que ça a un impact ? Quel effet ça ? Parce que, par exemple, la gardiane de taureau, de taureau, il y a des gens qui ont fait une charte de la gardiane de taureau, donc il y a la loi gravée dans le marbre, et si on ne fait pas comme ci, comme ça, voilà. Il y a une tendance de ces indications, de ces chartes à figer les choses, non, un peu ?
Moi, je suis, comme à Marseille, on avait la charte de la bouillabaisse, je suis absolument contre ce genre de charte, parce que ça ne permet pas aux... Bon, il y a une tradition, on la connaît, elle s'inscrit dans les recettes, mais les cuisiniers, les chefs, dans leur cuisine, ils peuvent innover. Alors, la gardiane, c'est ça, et puis c'est 100 grammes d'oignons pour... etc. Ça devient un carcan, et ça empêche la cuisine d'évoluer. Ça empêche à la cuisine au cuisinier de rajouter un produit qui dit tiens, ça va faire bien dans ma gardiane et garder le nom de gardiane. Ouais. On peut toujours, comme on dit gardiane de taureau, il y avait la gardiane, l'origine de gardiane c'était avec du mouton, étant dit gardiane de taureau, le gardiane de taureau c'était avec du taureau. On peut dire gardiane avec en rajoutant. Mais ça oblige notamment.
C'est l'éternel débat entre tradition et innovation, quoi, entre tradition et modernité.
Entre traditionnaliste et moderniste, disons. Non, parce qu'il y a un respect de la tradition, il y a un respect des modes de cuisson, des mélanges, des saveurs. Mais après, vous savez, c'est comme le folklore, hein, tu sais, c'est comme le folklore. Hein. Le folklore, c'est quand l'art meurt, la vie meurt dans l'art, et donc il reste les fifres et les tambourins. Voilà, donc c'est.
C'est la culture empaillée.
La culture empaillée et la cuisine, ça peut devenir une cuisine empaillée, quoi. Donc ça, c'est très dangereux. Hein, si on va plus loin, il y aurait pas de sauce tomate. Hein. La sauce tomate, c'est arrivée au 16e siècle. Enfin, les tomates sont arrivées au 16e siècle. Il y aurait pas de cuisine.
Ouais, alors Pierre Millot, défenseur de la nuit des temps.
Moi, pour la gardienne de taureau, je vais être simple et précis. Je suis très content qu'on ait fait justement ce sacre de la gardienne de taureau. Mais sachez que toute ménagère, tout gardien fait à sa façon la gardienne de taureau. Et la gardienne de taureau, c'est comme les paellas, il y en a des centaines. Alors, c'est pas parce qu'on a créé une charte. On a créé une charte pourquoi ? Pour préserver justement cette viande et pour préserver une certaine façon de la faire. Mais il y en a qui ajoutent du sang, il y en a qui ajoutent un peu plus de sel, il y en a qui ajoutent un peu plus de vin, il y en a qui font mariner, il y en a d'autres qui font pas mariner, il y en a d'autres qui mettent la tomate, il y en a d'autres qui en mettent pas. Donc, des gardiennes de taureau, il y en a des centaines, mais ça n'empêche pas que la charte est posée et que quand vous allez dans un restaurant des Sainte-Marie ou un restaurant de la région qui affiche gardiennes de taureau, il faut qu'il soit être capable d'afficher gardiennes de taureau AOC, nés et élevés en Camargue, que ce ne soit pas du taureau qui vienne d'Espagne. Et justement, pourquoi on a défendu cette charte et pourquoi on a fait cette charte avec justement Roger Merlin, les cuisines camarguaises, cuisines de la Méditerranée, avec son école de cuisine au Sainte-Marie-de-la-Mer, on a fait cette charte pour défendre et pour pas faire n'importe quoi et qu'on voit n'importe quoi. Ça veut dire que le restaurateur qui affiche gardienne de taureau, il faut que le taureau soit né et élevé en Camargue s'il affiche AOC. Et avec Monsieur Merlin, justement, on on a lancé quelque chose d'extraordinaire avec cette viande de taureau, c'est nous qui l'avons lancé, c'est le carpaccio de taureau qu'on a fait. On a fait goûter cette viande crue, coupée mince, marinée à l'huile d'olive, mais c'est quelque chose, c'est un délice. Il n'y a pas du tout de gras. Je veux dire, c'est une communion de la Camargue. Qui n'a pas goûté la gardiane de taureau n'a jamais communié en Camargue.
Goûter la gardienne de taureau et mourir.
Non, mais moi, je suis d'accord sur les questions de charte. Je suis d'accord que sur la question de préserver les produits. C'est-à-dire que si on dit gardienne de taureau, effectivement, c'est du taureau de Camargue, AOC, et ça fait partie du jeu. Ça fait partie de... maintenant, après, de là à faire une charte, moi, je... Les chartes, c'est toujours...
Chantal, vous voulez dire un mot sur ce sujet ou...
Non, c'est vrai que c'est complexe parce que à la fois, il est important malgré tout de ne pas tromper le consommateur. Je pense que l'idée de la charte de la gardienne de taureau de Camargue, elle était là parce que il faut bien reconnaître que on est dans une région touristique, on veut faire découvrir nos produits et il faut qu'on le fasse de manière cohérente, sincère et que ce soit bien fait. Donc je pense qu'elle était dans cette idée-là. Mais moi, je suis un peu aussi pour laisser les choses un peu libres et laisser la place à l'innovation.
Bon, alors, est-ce que justement la cuisine camarguaise aujourd'hui est innovante ? Est-ce qu'elle se renouvelle ?
Moi, je pense que oui, parce que
qui et comment ?
On a la chance d'avoir en Camargue quelques chefs qui sont donc Armand qui n'a pas pu être là.
Armand Arnal
de la Chassagnette, mais on a également
hier soir, je rappelle, le restaurant.
Voilà, on a également quelqu'un comme Jérôme Laurent du Cilantro à Arles, qui sont Rabanel, des gens.
Oui, on a Rabanel, Jean-Luc Rabanel, qui est extraordinaire, qui fait le taureau AOC. Il affiche, taureau AOC.
Et Jean-Luc Rabanel qui sera en interview cet après-midi à 15h sur Radio Grenouille. Grand entretien.
Grand entretien, c'est bien, oui.
17...
À 14h, pardon.
À 14h,
ce sont des gens
il pourrait dire que Pierre Niaud défend Rabanel avec son taureau AOC.
Ce sont des gens qui, à mon sens, apportent et renouvellent justement des plats traditionnels, apportent de l'innovation.
C'est-à-dire qu'on peut qualifier leur cuisine de cuisine camarguaise.
Oui, tout à fait. Ils utilisent les produits du terroir. Ce sont de vrais faire-valoir des produits du terroir. Par exemple, quelqu'un comme Armand Arnal a mis le riz rouge, le riz complet dans énormément de plats. Il a décliné de manière très, très ludique. Dans des petits cornets, en faisant des petites boulettes, en faisant sous des formes de tapas, des choses qui sont absolument pas...
Mais ça, c'est dans les restaurants. Comment ça se diffuse de façon plus générale dans ce qu'on appelle la cuisine, quoi, celle qui concerne...
Mais justement, ces gens-là, outre le fait qu'ils renouvellent, ils sont friands de faire passer leurs idées. Et ce sont des gens qui ont accepté d'adhérer aux conservatoires locaux tels que le conservatoire Grand Sud ou le conservatoire de Camargue, et qui, en adhérant à ces conservatoires, s'engagent à divulguer leurs recettes, à faire des démonstrations et à montrer aux gens qu'on peut cuisiner de manière simple, avec de bons produits, tout en ayant des choses un petit peu innovantes, originales, et en étonnant ses convives. Et pour revenir au riz, le riz n'est pas un produit traditionnel de la cuisine française, tout bêtement, ni même camarguaise. Et le riz, on le cultivait, mais on ne savait pas le manger et on ne savait pas le consommer en France. Et en Camargue, encore moins. Et on ne parlait du riz qu'au travers, malheureusement, de risotto ou de paella. Donc le mérite de ces gens-là, c'est de montrer qu'on peut faire des riz complets, des riz parfumés, tout simples et savoureux, et qui peuvent accompagner une côte de bœuf, un poisson grillé, des légumes de pays, qui peuvent être accompagnés. Voilà. Et moi, je pense que ces gens-là, ils ont...
Est-ce que les gitans ont eu une influence sur la cuisine camarguaise ?
Il y a une recette qui s'appelle la bohémienne.
Bruno, si tu peux penser à parler dans le micro, c'est mieux. Merci.
C'est mieux ?
Ouais.
Il y a une recette camarguaise qu'on appelle la bohémienne, qui est une espèce de gardiane ou de carbonade plutôt, ou une espèce de ratatouille. Et on dit qu'à la fin, les gitans plongeaient un hérisson dedans. puisque le hérisson, c'est quand même la viande préférée dans la cuisine gitane. Voilà, c'est une des rares recettes peut-être qui nous parvient sinon ils mangent.
Ils mangent beaucoup. J'ai pas de... le gitan, ce qu'il aime bien et ce qui vraiment, quand on arrive à en avoir, c'est les mamelles de vache qu'on coupe très minces et qui mettent grillées. C'est extraordinaire. C'est vrai que le hérisson, le gitan aime ça. Mais pour parler de la bohémienne, ou de la ratatouille de Nice, bohémienne pour le gitan, parce qu'on mettra peut-être un légume à moins, disons que j'étais un peu le spécialiste, puisque pendant plus de 15 ans, j'ai fait les fêtes du cheval à Fourques, et qu'on recevait 1500 personnes, qu'on faisait une tonne de bohémienne, une tonne, avec une poêle spéciale, et que j'étais chargé, avec toute mon équipe, de faire 8 euros à la broche. Ça veut dire plus d'une tonne de viande, ça. Hein. Ça veut dire une tonne et demie de viande cuite à la broche qu'on cuisait toute la nuit doucement et qu'on arrosait toujours. Et que le lendemain, à midi, à une heure, on découpait devant les gens, devant les convives. Donc, viande de taureau, quelque chose d'extraordinaire.
Donc, Bruno, quel est ton regard, toi, sur le renouvellement ou pas de la cuisine camarguaise aujourd'hui? Et quels sont les acteurs, s'il y a de ce renouvellement? Chantal parlait des grands chefs, Rabanel, Armand Arnal, tout ça.
Mais moi, je crois que ça fait partie d'un mouvement général qui de plus en plus de gens s'intéressent au bio, s'intéressent à l'agriculture raisonnée, s'intéressent aux légumes, aux produits de saison, et que dans le cadre de cette
expérience... Le bio, c'est l'éthique qui se réapplique dans la cuisine, ça aussi.
Oui, mais le bio, ça permet d'essayer de trouver des nouvelles recettes, d'essayer d'appliquer, de mettre en exergue des légumes, peut-être un peu moins consommer de viande. Donc ça permet d'avoir l'introduction du riz. Bon, tout ça permet d'avoir effectivement une évolution de la cuisine. Peut-être pas un renouveau au sens où c'est... une évolution de la cuisine qui va vers... Et puis, on est contraint avec les nouvelles manières de vivre, le temps de faire la cuisine, d'utiliser au niveau technologique maintenant des outils merveilleux qui permettent d'aller plus vite et de faire... Donc, oui, la cuisine camarguaise évolue, mais peut-être que l'introduction du riz a fait beaucoup, beaucoup bouger la cuisine camarguaise. À mon avis, plus que le taureau, parce que ça fait partie... Mais le riz a introduit un produit nouveau qu'on ne connaissait pas, qui n'était pas utilisé dans ces dernières années. Et on n'a pas copié... Mais la paella, bien que on vende des tonnes à Arles le jour de la feria, dans la cuisine familiale, c'est très peu la paella. Et quand on a très peu copié aussi les risottos italiens. Donc il y a eu vraiment une évolution là, dans l'utilisation du riz dans la cuisine.
Alors toute cette culture de la cuisine, ces évolutions, ces innovations, tout ça, c'est une partie importante du travail du Conservatoire des cuisines méditerranéennes, dont tu es le responsable. Et là, on est en ce moment à Terroir 13, mais il y a... Je crois que le conservatoire va être à l'origine d'une autre manifestation qui va se dérouler à Marseille en septembre, qui va être aussi quelque chose d'envergure autour de la cuisine.
On va faire une grande manifestation en septembre sur le Vieux-Port, le 18-19-20 septembre, et on travaille en partenariat avec une dizaine de grands chefs de Marseille. Et on veut montrer que la cuisine, ça peut être un quelque chose de très haut niveau, au niveau artistique et au niveau de la dégustation, mais qu'il existe une cuisine populaire qu'on appelle cuisine de rue, beaucoup la nomment en anglais street food ou en italien cibo di strada, et que cette nourriture de rue, c'est vraiment les traditions de la Méditerranée et ces traditions qui font que on peut en Méditerranée manger dans la rue en perdant son temps à parler ensemble.
Merci Bruno. Chantal, on arrive à la fin de cette émission, c'est pour ça que je vous pose cette question-là. Chantal, vous, je crois qu'à la même période, en septembre, vous êtes pris avec le syndicat des riziculteurs dans une autre manifestation.
Oui, septembre est une période très chargée à Arles, puisqu'il y a une manifestation qui s'appelle Camargue Gourmande, qui a lieu le week-end avant le 19-20-21. Et le 19-20-21, il y a également une manifestation très populaire qui s'appelle les les prémices du riz, où là aussi, on organise nous aussi un petit coin de cuisine de rue avec des cuisiniers, à la fois du conservatoire, mais d'autres cuisiniers d'autres régions qui vont venir s'affronter et faire des joutes culinaires autour des produits de Camargue et de Méditerranée.
Pierre Millot, vous, la prochaine manifestation, là, vous êtes à Terroir 13, alors si vous voulez entendre parler du taureau, venez voir Pierre Millot à voilà. Terroir 13 jusqu'à demain.
Ouais, ouais.
Et vous participez à d'autres manifestations
Oui, dans l'année, on participe à pas mal de salons, on va promouvoir, disons, et même jusqu'à Paris, puisqu'on tient le salon de l'agriculture. Mais j'en reviens toujours pour cette charte de la Gardiane, j'en reviens pour cette AOC, parce que je demande aux consommateurs simplement, s'ils veulent faire une bonne Gardiane, eh ben, il faut qu'ils prennent le taureau né et élevé en Camargue. Il ne faut pas un taureau limousin ou il ne faut pas un taureau espagnol. Et c'est là que, justement, mon point de vue, que je viens de défendre les éleveurs qui sont acharnés et qui, quand même, ont beaucoup de travail et arrivent à produire cette viande, et bien de déguster cette viande née et élevée en Camargue. Ça, c'est le point essentiel qu'un restaurateur qui prépare la viande de taureau ou un boucher doit absolument afficher.
Je crois que votre message est passé. Pierre Millot, Chantal Robles, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bruno Giraud-Hérault également, du Conservatoire des Cuisines Méditerranéennes. Donc, je vous rappelle que cette émission prend place dans une thématique antenne de la grenouille qui s'appelle Dévoration. Nous étions en direct du Conseil Général dans le cadre de la manifestation Terroir 13. Mais à l'antenne, les programmes continuent autour de cette thématique Dévoration. Donc à suivre à midi une mélasse caraïbe spéciale salsa piquante, à 14h donc le grand entretien avec Jean-Luc Rabanel, un chef étoilé, deux étoiles au Michelin, je crois, qui a un restaurant à Arles et qui est en train d'ouvrir d'autres restaurants, je crois qu'il est en train de phagocyter toute une rue à Arles. Demain à 13h30, vous pourrez entendre la chronique du gastrosophique du professeur Rosmini, que vous entendez depuis à peu près un an et demi tous les dimanches. Également dans la semaine, je vous signale à ce propos que Marc Rosmini sera le 12 juin aux grandes tables de la Friche pour une conversation socratique. C'est le début d'une série et la première conversation socratique portera sur la cuisine. Justement, la cuisine est-elle un art ? Donc rendez-vous le 12 juin aux grandes tables de la Friche pour participer à cette discussion. La prochaine table ronde qui aura lieu en direct de Terroir 13 sera diffusée le lundi 15h, portera sur ça s'appelle Sucré Maison, ça portera sur les desserts et sera diffusé à l'antenne de la grenouille lundi à 15h. Voilà. Ben, merci donc à vous trois d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir été à l'écoute. Bon week-end et à bientôt sur les 3-8.
Oh, qu'il est mignon! Qu'il est mignon! Qu'est-ce que c'est?
Dévoration!